Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le processus de mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda reste au point mort. C'est le constat du baromètre des accords de paix en Afrique dans son évaluation du mois de juillet 2026. Une embarcation en provenance de Kisangani avec une centaine de passagers à bord immobilisés hier mercredi à Kinshasa, selon les services de sécurité et de santé au port de Maluku, dans la partie est de la capitale. Ces bateaux transportaient les corps d'une personne dont le décès est suspecté être lié à la maladie à virus Ebola. 17e épidémie à virus Ebola en RDC avec la souche Bundibugyo. Plus de deux mois après, l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi est revenue sur ce sujet. Des extraits des intervenants vous seront proposés à la fin de ce journal. Sécurité, pour commencer ce journal, le processus de mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda reste au point mort. C'est le constat du baromètre des accords de paix en Afrique dans son évaluation du mois de juillet 2026, rendu public il y a deux jours. Malgré quelques avancées diplomatiques, le niveau global d'exécution de l'accord n'a pas progressé. Des précisions avec Martial Papimukeba.
Selon les baromètres des accords de paix en Afrique, le taux global de mise en œuvre de l'accord reste fixé à 35%, soit 105 points sur 300, un niveau échangé par rapport à la fin du mois de juin. Les rapports indiquent que 22 des 30 engagements prévus ont déjà été lancés, mais sans avancée majeure. La RDC affiche un taux d'exécution de 31,7%, le Rwanda 30,6%, tandis que la communauté internationale atteint 53,5%. Parmi les progrès enregistrés figurent la réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre Kinshasa et Kigali, la mise en place du mécanisme conjoint élargi de vérification du cessez-le-feu, ainsi que l'annonce d'un dialogue national inclusif en RDC. Mais selon les baromètres des accords de paix en Afrique, plusieurs blocages persistent, notamment les divergences sur les retraits des mesures défensives rwandaises, la question de la neutralisation des FDLR et la poursuite des violences dans l'est du pays. Les rapports appellent les parties à accélérer la mise en œuvre de leurs engagements et à renforcer les mécanismes de vérification. Béni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Nous ne quittons pas cette partie de la RDC puisque différents services de la prison urbaine de Kangwaï à Beni sont désormais bénéficiaires de 45 registres. Des documents leur remis hier mercredi par la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monisco. Cette dotation intervient quelques semaines après l'incendie de plusieurs documents administratifs lors d'une mutinerie impliquant des détenus militaires qui réclamaient le paiement de leurs soldes dans cette prison du Nord Kivu. Une situation qui avait perturbé le fonctionnement de l'établissement. Tsongo Makelele, directeur de la prison urbaine de Kangwaï, revient sur l'importance de ces nouveaux documents au micro de Martial Papimukeba.
Les mois passés, nous avons connu une situation grave où les détenus militaires ont fait une mutinerie à la prison sous prétexte qu'ils réclament leur solde. Et à l'issue de cette mutinerie, plusieurs documentations ont été détruites par ces malfrats qui ont fait ces bavures. Notamment, nous avons eu des registres qui ont été détruits par ces détenus. Alors, ça faisait déjà un problème dans le fonctionnement, dans l'administration parce qu'on n'avait plus de registres. Soit je vous dis que nous sommes vraiment dans un sentiment de satisfaction d'avoir réussi un loin important. De ces registres vont nous aider à améliorer les conditions de travail au niveau de la prison. Nous avons réussi les registres des crews, nous avons les registres de fixation des peines, les registres des décès, les registres des situations journalières, les registres des évadés repris, les registres des consignations des biens de détenus, les registres des libérations conditionnelles et les registres des malades. Vous allez comprendre que les registres auxquels je venais de faire un jour ici, ce sont vraiment des documents clés dans l'administration de l'établissement pénitentiaire.
L'actualité, c'est aussi cette embarcation arraisonnée par les services de sécurité et de santé au port de Maluku. Nous sommes à l'est de Kinshasa, la capitale. Ces services ont immobilisé hier mercredi ces bateaux en provenance de Kisangani avec une centaine de passagers à bord. Motif, ils transportaient les corps d'une personne dont le décès est suspecté être lié à la maladie à virus Ebola, ce qui a poussé les autorités à mettre en place un important dispositif depuis mardi soir. Objectif, empêcher les passagers du bateau de se disperser dans la nature avant les contrôles sanitaires. Reportage, Ronéline Tibonera, Idi Amin.
Selon le directeur général de l'Institut national de santé publique INSP, c'est à hauteur de Bendé-Bendé, avant son accostage au port de Maluku, que le bateau a été intercepté. Des éléments de force de sécurité, appuyés par les équipes d'experts de la santé, ont été déployés pour empêcher les passagers de quitter l'embarcation avant les opérations de contrôle. Le responsable de l'INSP précise que des mesures d'identification, de dépistage et de cantonnement ont été mises en place afin de détecter d'éventuels cas suspects. À cette occasion, Dieudonné Mwamba a appelé la population au calme et l'a invité à poursuivre normalement ses activités.
La population doit être assurée que les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de cas ici. Il est arrivé, c'est vraiment au niveau de Maluku qu'il a été intercepté avant même Maluku. Donc c'est par là que tous les passagers sont identifiés là-bas et suivis là-bas. Donc on a cantonné carrément cette embarcation là-bas.
Considéré comme un partenaire clé du gouvernement dans la riposte aux épidémies, l'Organisation mondiale de la santé OMS a également confirmé les déploiements de ses équipes dans la zone de Maluku. Ce dispositif répond à un double objectif. Outre cette embarcation soupçonnée de transporter les corps d'une victime d'Ebola, un autre navire en provenance de la province de l'Équateur, à bord duquel un décès lié au choléra aurait été signalé, devrait également être intercepté.
Et face à cet éventuel cas d'Ebola à bord de l'embarcation en provenance de Kisangani, un expert en santé publique opte pour un renforcement des mesures barrières dans la capitale. Docteur Léon Kinwani appelle au respect des mesures universelles d'hygiène pour prévenir cette épidémie. Doyen de la faculté de santé publique à l'université Simon Kimbangu ici à Kinshasa, il conseille notamment le lavage régulier des mains, l'abstention des contacts physiques et la prudence face à la consommation de viande provenant d'animaux trouvés morts. Docteur Léon Kinwani est au micro de Blaise Nongala Mayanda.
Rien que l'hygiène alimentaire vous prévient à éviter un certain nombre de maladies. Pour celui qui ne mange pas tout ce qui lui tombe entre les mains, c'est déjà bien. Celui qui ne doit pas manger sans se laver les mains. Les mains, on se lave autant de fois par jour. Parce que ces virus ne se transmettent pas comme une génération spontanée. Il faut que vous ayez un contact étroit avec les facteurs de risque. Et dans les facteurs de risque, par ordre numéro 1, ne touchez pas à la viande qu'on vous a donnée comme ça sans que vous sachiez elle vient d'où. Numéro 2, vous pouvez saluer les gens, mais il faut toujours se laver les mains. Numéro 3, quand vous allez à l'hôpital, sachez que vous êtes entré dans le cœur de maladie. Donc quand vous quittez l'hôpital, vous venez à la maison, avant de toucher aux autres, il faut vous laver, il faut changer les habits. Vous avez été dans une société, vous avez été dans un bus, vous avez été là où vivent les autres humains. Ces brassages-là est source de maladie. Donc il faut, quand vous rentrez chez vous, adopter les mesures universelles d'hygiène. Si vous le faites, même si le cas d'Ebola est à côté de vous, vous ne l'aurez pas.
Plusieurs jeunes du Grand Kassai et du Bandundu refusent de céder à la galère malgré l'exode urbain observé ces dernières années. À Mbujimayi, à titre illustratif, les jeunes créent eux-mêmes des opportunités économiques pour subvenir à leurs besoins. Kiosques et des bureautiques, vente des crédits, produits alimentaires ou lubrifiants. Ces initiatives montrent que tout n'est pas aussi noir dans ces provinces, souvent présentées comme traversant d'énormes difficultés. Esther Ndalafina a rencontré quelques jeunes. Suivez son reportage.
En Mbujimayi, l'ingéniosité des jeunes redonne des couleurs à un paysage économique longtemps marqué par le chômage et l'exode urbain. Dans plusieurs quartiers, des nouveaux kiosques poussent, tenus par des jeunes qui ont décidé de se prendre en charge. Ils proposent des services de bureautique, vendent des crédits téléphoniques, des produits alimentaires ou encore des lubrifiants. Simon-Pierre Kefa est propriétaire d'une bureautique.
À travers cette activité, nous achetons aussi la nourriture.
Ces initiatives locales montrent que, malgré les difficultés, une nouvelle dynamique économique portée par la jeunesse est en train d'émerger. Christian Mouya s'est lancé dans le nettoyage des engins roulants depuis le début de cette année.
En mettant l'argent, je nettoie les véhicules, je nettoie les motos, même les mopettes.
Pour Bijou Binyanga, plusieurs autres activités, bien que modestes mais constantes, permettent de générer des revenus réguliers et de répondre aux besoins essentiels des CPR.
Il faut toujours créer quelque chose de petit, même vendre la braise, même vendre de l'eau.
Pour beaucoup de jeunes, il s'agit d'une manière de rester digne, de refuser la fatalité et de prouver que les provinces du Grand Kassai et du Bandundu regorgent de potentialités. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis, 152 entreprises ont pris part hier mercredi à Kinshasa à la deuxième journée de clinique fiscale organisée par la Direction générale des impôts, dépassant légèrement l'objectif initial des 150 participants. D'après les bilans communiqués par la DGI, 100 entreprises étaient déjà préenregistrées, tandis que 52 autres se sont présentées de manière spontanée. Jocelyne Moussaou nous donne d'autres détails.
Plusieurs partenaires techniques et institutionnels ont accompagné cette initiative aux côtés d'exposants spécialisés dans la facturation électronique, l'intégration des systèmes fiscaux et les services numériques. Des stands d'assistance et des démonstrations ont permis aux contribuables de tester les équipements, d'échanger avec les éditeurs de logiciels agréés et de bénéficier de l'appui des opérateurs télécoms. Ces cliniques fiscales sont des espaces d'aide mis en place par la Direction générale des impôts pour faciliter la compréhension et l'utilisation de nouveaux outils fiscaux numériques. Elles permettent aux entreprises de poser leurs questions, de résoudre leurs difficultés et de se mettre en règle plus facilement. Les principales préoccupations concernaient la mise en conformité avec la facture normalisée, l'activation des comptes sur la plateforme dématérialisée, l'homologation des systèmes de facturation et les problèmes de connectivité des dispositifs électroniques fiscaux. Selon la DGI, plusieurs difficultés ont été résolues sur place grâce à l'accompagnement des équipes techniques.
Et sous un autre chapitre des travaux de la revue annuelle de la province éducationnelle Kwilu 1 ont été officiellement lancés hier mercredi à Bandundouville par le gouverneur de la province Philippe Akamitou Nandolo. Des acteurs du secteur de l'éducation sont réunis pour évaluer les performances enregistrées au cours de l'année scolaire 2025-2026 et ensuite définir des pistes d'amélioration pour la prochaine année. C'est un reportage de Jean-Claude Ntangamou de la radio-télévision Bandundu Développement rendu ici par Benjamin Moudoumbi Malabar.
Cette rencontre réunit les responsables du sous-secteur de l'éducation au niveau provincial et sous-provincial autour d'une évaluation globale des activités réalisées au cours de l'année scolaire qui s'achève. Les participants examineront notamment les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives pour améliorer la qualité de l'enseignement. Les directeurs de province éducationnelle, Kwilu en Hervé Mungeta, revient sur les objectifs de ces assises.
Dans ce grand atelier, ça sera question d'évaluer les performances, de voir quels ont été les points négatifs, les points positifs, quelles seront les pistes que nous allons envisager.
Prenant la parole, le gouverneur de province du Kwilu, Philippe Akamituna, a exhorté les participants de bien se concentrer pour ressortir des bons résultats pour le bonheur des enfants du Kwilu.
J'attire votre attention de bien vouloir vous concentrer à l'essentiel en vue de donner les meilleurs de vous-même. Éviter les antivaleurs et autres comportements qui désavouent la personnalité humaine qui sont à la base de la dégradation du système éducatif actuel.
Pour rappel, cette revue se déroule simultanément dans les trois provinces éducationnelles du Kwilu.
Et pour terminer cette partie du journal, nous allons vous parler encore une fois du cycliste congolais Miguel Massaïsaï. Il est arrivé hier mercredi à Kinshasa dans le cadre de son initiative Pedals for Peace. Sur place, à l'esplanade du Palais du Peuple, Miguel Massaïsaï a été accueilli avec effervescence par des cyclistes, des jeunes passionnés du vélo, des motards, une délégation du Conseil national de la jeunesse, des autorités de l'entente urbaine du cyclisme de Kinshasa. Reportage Joël Wetchi.
Après avoir quitté la commune de Maluku à 8h, Miguel Massaïsaï est arrivé au Palais du Peuple à 13h20 à bord de son vélo. Présent lors de l'accueil de ces jeunes cyclistes, le président du Conseil de la jeunesse, Claude Mbouy, salue cette initiative et appelle les jeunes ainsi que les autorités à soutenir Pedal for Peace.
C'est une grande initiative qui entre même dans la vision de la résolution 2250 des Nations Unies. C'est ainsi, j'en sollicite l'appui, l'accompagnement technique et financier. Et je demande à toute la jeunesse congolaise d'apporter le soutien à notre héros.
De son côté, le président de l'entente urbaine des cyclismes de Lukunga, Abraham Luakabwanga, s'est dit fier du parcours de ce jeune athlète. Devant le palais du peuple, Miguel Massaïsaï s'est mis à genoux pour balancer les messages de la paix.
J'avais fait une promesse à mes frères et sœurs de l'Est qu'une fois à Kinshasa, je porterai leur voix. C'est pourquoi devant le palais du peuple, je me mets à genoux pour demander à nos autorités. Nous, les peuples congolais, nous n'avons besoin que de la paix.
Notez que de Goma à Kinshasa, Miguel Massaïsaï a déjà parcouru 6500 km sur les 14 000 km prévus allant de la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Au Sénégal, trois chroniqueurs proches du parti PASTEF, d'Ousmane Sonko, ont été condamnés hier mercredi à des peines de prison ferme par le tribunal de Dakar. Ils ont été reconnus coupables d'offenses au chef de l'État et des discours contraires aux bonnes mœurs. Après la diffusion d'une vidéo dans laquelle ils appelaient au malheur et à la mort de celui qu'ils considèrent qu'il a trahi les projets du PASTEF, une formule largement interprétée comme visant le président Bassirou Diomaye Faye.
L'invité.
À Kinshasa, les services de sécurité et de santé ont arraisonné hier mercredi une embarcation en provenance de Kisangani, à bord de laquelle se trouverait le corps d'une personne décédée de la maladie à virus Ebola. L'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi a fait le point de la 17e épidémie à virus Ebola en RDC plus de deux mois après. Écoutons un extrait de l'intervention du docteur Joseph Kakisingi, coordonnateur national des fora des ONG humanitaires et de développement CONAFOD, plateforme regroupant plus de 600 organisations réparties sur l'ensemble de la RDC. Il est au micro de Dona Madimba.
Docteur Joseph Kakisingi, quelles pourraient être vos données à ce jour sur la maladie à virus Ebola dans les espaces concernés en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien souligné, je ne suis pas un officiel dans la gestion d'Ebola, mais je coordonne un réseau des 600 organisations réparties à travers le pays. Et parmi ces organisations, nous avons une sous-coordination à Nitouri et une sous-coordination à Kisangani, donc dans la Tchopo, donc qui suit un peu ces choses-là. Par rapport aux statistiques, nous avions prévu ou nous avions anticipé en disant qu'Ebola risque de faire plus de cas si on ne fait pas attention. Donc aujourd'hui, on parle de 3500 ou au-delà des cas et de plus de 1700 morts. Mais ça, ce sont des cas qui arrivent dans les centres de traitement. Il y a plus de cas communautaires qui ne sont pas comptabilisés. Donc, on peut s'attendre peut-être à un double par rapport à ça. Parce que déjà, quand on regarde les statistiques publiées par les services habilités, vous voyez que plus de 59% des statistiques viennent des décès communautaires qui sont identifiés. Il y a beaucoup d'autres décès qui ne sont pas identifiés. Et seulement, je pense, 41 ou 49% des cas qui meurent dans les centres de traitement. Donc, il y a un grand nombre de statistiques qui n'est pas connu. Et donc, ce qu'on présente aujourd'hui par rapport à nos estimations, ça pourrait être peut-être la moitié.
Alors, à ce jour, la même question revient à chaque fois que nous faisons le point. Est-ce que, selon vous, nous avançons vers une solution probable ou bien la situation est enlisée, voire même critique dans l'échec?
J'ai risque de décevoir certains, mais je suis très pessimiste. Je pense qu'on ne maîtrise pas cette épidémie et on ne lui donne pas tous les sérieux nécessaires pour qu'on puisse la gérer correctement. Je donne un exemple. À deux semaines de la déclaration de l'épidémie, nous, notre réseau s'était réuni pour faire une évaluation. Et immédiatement, on avait dit, à ce stade ici, si on ne fait pas attention, ça va évoluer très vite. Et faire attention, c'est-à-dire quoi? Il faut impliquer immédiatement les volets communautaires pour qu'on puisse étouffer, la situation dans l'œuf. C'est-à-dire que pour faire une ceinture communautaire autour des cas et empêcher la propagation. Donc la situation n'est pas...
Alors, docteur Joseph Kakisingi, les solutions semblent exister. Quand on vous écoute et quand on prend en compte aussi beaucoup de vos prédécesseurs qui sont passés dans cette émission, parce que depuis l'épidémie, nous faisons régulièrement des points. Qui propose des solutions qui rejoignent les vôtres ou qui sont, selon eux, aussi efficaces que les vôtres? Mais si ces solutions existent et si la RDC a l'expérience de 16 autres épidémies déjà résolues, pourquoi ça ne s'applique pas et pourquoi on n'est pas dans une phase descendante en ce moment-ci?
Je pense que ça, c'est une très bonne question et on en a discuté beaucoup aujourd'hui. Vous savez, nous, on fait beaucoup de pression parce qu'on savait que les solutions qui existent ne sont pas connues. Et on a vu que les solutions sont vraiment connues. Aujourd'hui, quelle est l'erreur? On centralise tous les efforts sur les aspects médicaux, les centres de traitement.
Mais pourquoi on n'applique pas ce qui doit être appliqué? Pourquoi?
Moi je pense que le problème vient de la coordination elle-même. Parce que la coordination est centralisée sur la santé et on oublie les autres volets communautaires qui sont plus importants. C'est comme ça que nous avions proposé, par exemple, au lieu que la coordination soit centrée sur le ministère de la Santé, qu'il soit centré sur la Première ministre, parce qu'il y aura plus de possibilités d'ajouter, par exemple, le ministère des Affaires humanitaires pour s'occuper des volets humanitaires et communautaire, qui est d'autres ministères intérieurs, je ne sais pas quoi, et ça fait que ce n'est plus polarisé. Ça donne plusieurs possibilités d'agir. Et là, on ouvrirait un couloir pour les humanitaires de pouvoir s'occuper des volets communautaires et de pouvoir couper la chaîne de transmission. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le mécanisme mis en place devient un facteur de propagation.
C'est la fin de ce journal. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté. Il est 8h20 à Kinshasa, 9h20 à Kaina, au Nord Kivu.